mon partenaire de Miami me dit « Mais les RP, là, vous autres, des fois, vous contribuez jusqu'à hauteur de 60 % du SEO organique quand il voit là, dans ses clients à lui. »
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 58e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook, en gérant fièrement plus de 1 million de dollars de publicité Facebook par mois. G7 Media aide depuis 8 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de G7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer la performance de vos campagnes. Pour le dernier épisode de 2020, on reçoit Nathalie Bibeau, fondatrice de la firme Nata PR, une agence de relations publiques établie à Montréal, Toronto et Miami. Après une année rocambolesque pour tous, Nathalie nous explique quels ont été les bons coups des grandes marques en regard à la crise du COVID-19 et également les moins bons. On aborde également les étapes qu'elle a suivies afin d'implanter son organisation dans 3 langues et dans 2 pays. Sans plus attendre, ma discussion avec Nathalie Bibeau. Nathalie Bibeau, tu es fondatrice de l'agence de relations publiques Nata PR. Depuis près de 20 ans maintenant, vous opérez dans le monde des RP en ayant notamment des installations à Montréal, Miami et Toronto. Au cours de ta carrière, tu as eu la chance de travailler avec des marques de renom comme IKEA, Natrel, Lolé et plusieurs autres entreprises très connues en Amérique du Nord. Nathalie Bibeau, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Ah non, c'est moi, je suis tellement contente d'être là, trop heureuse, merci de m'avoir invitée.
Ça finit bien une semaine, hein? On enregistre ça vendredi le 11 décembre, c'est toujours intéressant de terminer sur des discussions. Et Nathalie, l'objectif du podcast aujourd'hui, c'est de comprendre quel pouvoir les relations publiques peuvent avoir sur la croissance de certaines entreprises. Notre audience sur hypercroissance, c'est des entrepreneurs qui veulent savoir comment ils peuvent utiliser des trucs et des techniques pour passer en hypercroissance. Moi, personnellement, c'est un sujet que je connais peu, mais qui me fascine énormément. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, peux-tu nous parler aujourd'hui de la création de ton entreprise au début des années 2000, je crois bien, là?
Complètement. En 2000, très exactement. Hein, toute une année pour célébrer un 20e anniversaire, je peux vous le dire. On va s'en rappeler longtemps de 2020.
Effectivement.
Oui. Et puis, il y a 20 ans, en fait, quand j'ai créé l'entreprise, l'entrepreneuriat était pas à la mode comme maintenant. Au fait, souvent, les gens de service comme moi, donc moi qui est dans le domaine des communications, moi, j'ai travaillé en entreprise 10 ans avant de créer mon ATAPR, mon agence de relations publiques. Donc, quand on voyait, par exemple, des gens venir nous vendre des services de marketing ou de communication, ce qui nous passait par la tête, c'était vraiment « Oh, mon Dieu, ils sont à leur compte, les pauvres. Ils sont peut-être pas assez bons pour se trouver une job. »
Oh, wow, OK. Ça l'a changé,
c'est vraiment
là.
C'est ça, la perception il y a 20 ans. Donc, juste pour vous dire comment maintenant on perçoit, je trouve ça formidable de voir comment on comprend mieux les entrepreneurs. En tout cas, on les admire plus qu'avant. Et ça, c'est vraiment un énorme changement. Donc, quand moi, j'ai fondé mon entreprise, je me disais, j'essaye ça pendant 6 mois, puis si ça marche pas, je me retrouverai un emploi quelque part dans le domaine des communications marketing. Puis finalement, 20 ans plus tard, je suis toujours à mon compte et très heureuse de l'être. Donc, j'ai beaucoup d'admiration aussi pour les entrepreneurs, vraiment.
Intéressant. Je vois que tu as été capable d'avoir installation Miami, Toronto. Donc, j'imagine que tu as dû, à travers le temps, te bâtir une réputation qui t'a donné des opportunités d'affaires à l'international. Elle était où la genèse là, d'avoir un pied à terre dans différents pays?
Ah ben, c'est sûr que comme pour bien des entrepreneurs, j'imagine même ceux qui veulent faire des croissances énormes, le plus grand marché est à nos portes. Hein? Ouais. Quand on habite à Montréal ou Toronto, on fait 1 heure de route, on est dans un des plus grands marchés au monde. Là. On parle pas de la Chine, bien sûr, mais on parle des États-Unis juste à côté de nous. C'est sûr que ça fait longtemps que je voulais vraiment aller explorer ce marché-là. Ma première raison, en fait, c'était d'accompagner des clients avec qui on travaille depuis longtemps, des marques canadiennes, de les accompagner dans le marché américain. Ça, c'était ma première volonté. Puis après, je me suis dit, il faut quand même que je me légitime dans ce marché-là. Puis bon, où m'installer. Puis bon, c'est sûr qu'on pense toujours à New York, Los Angeles, mais c'est tellement des marchés saturés. Et puis moi, faut savoir que je parle espagnol aussi. Donc, Nata, on pourrait avoir fait tout un podcast sur pourquoi ça s'appelle Nata. Nata, ceci dit, ça veut dire crème en espagnol. Ah. Donc, la nata de leche, pour ceux qui savent, la crème du lait. Bref, j'étais très intéressée aussi par le marché hispanophone. Mais bon, hein, il y a tout un stretch entre Montréal et Mexico, comme tu peux t'en douter, sur le plan du territoire. Puis des marques, souvent, qui sont peut-être justement issus du Sud ou hispanophones, ben ils sont en premier intéressés par le marché américain avant le marché canadien, très souvent. Enfin, bref, fait que moi, comme tout le monde, je lis les journaux et je voyais qu'à Miami, il y avait une effervescence. J'en parlais aussi avec des gens autour de moi qui me disaient, mais peut-être tu devrais aller explorer le marché de Miami, comme tu t'intéresses aussi à l'Amérique du Sud. Et donc, c'est ce que j'ai fait il y a, mon Dieu, ça va faire 3, peut-être même 4 ans déjà. Alors, on a fait un premier voyage, mon associé et moi, qui s'occupe du bureau de Toronto, David Tremblay, que je salue. Et donc, on a passé une semaine et on a travaillé avec... souvent, quand je fais du développement d'affaires, puis il y en a sûrement qui font ça aussi, hein, il y a parfois soit l'ambassade du Canada qui a une force d'affaires. Des fois, ils ont des délégués commerciaux qui sont très forts. Où il y a les délégations du Québec avec lesquelles j'aime beaucoup travailler aussi parce que des fois, il y en a qui sont sur le terrain depuis très, très longtemps puis qui peuvent nous aider dans des premiers rendez-vous comme ça, à aller explorer un marché puis à obtenir à nous aider au fait à rencontrer des entreprises. Et là, il n'y en a pas. Il y a pas la plus proche, elle est, je pense, à Atlanta, si je ne me trompe pas. C'est quand même drôle avec le nombre de Canadiens qu'il y a en Floride. Comment ça se fait? T'sais, on le sait, hein, les snowbirds.
Of course,
oui. Quelques-uns. Et puis, je me suis mis à chercher, puis on m'a guidé vers une association qui est vraiment hyper intéressante. Pour ceux qui ont envie de développer le sud des États-Unis, vraiment, là, il y a une entreprise, une association, une chambre de commerce qui s'appelle Canada Floride, qui est vraiment superbe. Pourquoi? Parce que c'est une des rares associations qui fonctionne comme ça. Ils ont des membres en Floride et ils ont des membres à Toronto, à Montréal, surtout pour l'instant, beaucoup à Montréal. Donc, ils ont des membres aux deux bouts. J'ai fait « Ah, c'est donc bien intéressant. » Alors, je me suis dit « Tiens, je vais essayer de voir quel genre de réseau ils ont. » Donc, ils ont une équipe à Montréal. Ils ont toujours des petites équipes, les chambres de commerce, comme vous le savez sans doute. Mais ils ont toujours des employés à Miami. Peut-être pas à Miami, attends, je me rappelle plus. Enfin, bref, en Floride. Donc, je me suis dit « Tiens, je vais les engager parce qu'on peut faire ça. Je suis devenue membre. » Puis tout de suite, après être devenue membre, il y a un membre de la Floride qui m'a contacté. J'ai fait « Waouh! » Et ça m'arrivait jamais, moi, que les membres... Tu sais, je deviens membre d'une chambre de commerce puis on me contacte spontanément, moi qui vends des communications, c'est assez rare. En tout cas, bref, donc c'est comme ça que ça est arrivé. Puis ça pour dire que j'ai découvert qu'à Miami, tu sais, quand on part à la chasse, comme je dis, quand on part explorer, des fois, on découvre autre chose. Donc, j'ai pas tout de suite accompagné des marques canadiennes comme je pensais. J'ai plutôt découvert un marché de très proche, très aimé des Français. À Miami, il y a une grande communauté latino, bien sûr, là, gigantesque, mais il y a aussi une forte communauté française et beaucoup de marques de beauté qui sont présentes là-bas, en tout cas. Donc, j'ai fait du travail avec des entreprises françaises, puis j'ai un partenaire stratégique formidable qui a un bureau en marketing numérique là-bas que je partage avec eux. Donc, ça c'est bien aussi quand tu veux développer un marché, de voir qui est complémentaire à toi.
Ben oui, 100%.
Parce que tu sais, tu peux te coller à son carnet d'adresses. Moi, j'aime beaucoup ça, faire ça. Et je le fais aussi encore dans tous les marchés où on est. J'adore ça, faire ça.
Le pouvoir des partenaires stratégiques est assez exceptionnel.
Ça, c'est très puissant. Ça nous permet d'aller, tu sais, très rapidement parce que, comme tu sais sans doute, on développe des liens privilégiés, nous, avec nos clients. Donc, si je dis à un de mes clients avec qui je travaille depuis plusieurs années, « Wow, je travaille ou j'ai un partenaire stratégique qui est une agence en marketing numérique fantastique, tu devrais les essayer. » Il y a de bonnes chances hein, qu'ils tentent l'expérience. Donc, ça va dans les deux sens. Ouais. Fait que donc, c'est ça qu'on a fait. Toronto, ben le Canada, c'est notre carré de sable. Et puis, les grands groupes, hein, faut savoir, les Coty, L'Oréal et compagnie, souvent, maintenant, nous demandent d'avoir pignon sur rue parce qu'ils veulent qu'on soit vraiment très ancré. Faut dire que ça, c'est tout le côté influenceur, médias sociaux qui fait ça. Ils veulent avoir des gens qui ont pignon sur rue. Donc, pendant des années, j'avais pas un bureau fixe là-bas. J'y allais une fois par mois. Puis bon, ben là, comme on pouvait plus, ça faisait partie du cahier de charge, finalement, d'avoir un bureau. On a ouvert vraiment un bureau là-bas. Puis c'est ce que j'ai fait au départ. Je me suis installée, j'ai cherché qui à Montréal, dans le domaine des communications, du marketing, avait des bureaux à travers le Canada. Puis bon, ben on a fait un partenariat stratégique, j'ai partagé des bureaux. Puis ensuite, on a eu notre bureau, bien sûr. Voilà, long détour, hein. Je réponds, tu veux m'arrêter, hein? Les gens des relations publiques, ça parle.
Non, mais c'est très intéressant. Moi, j'aime toujours ça comprendre un peu d'où un petit peu la genèse de l'organisation, puis par la suite, les différentes initiatives de développement. Donc là, juste pour bien comprendre, emprunte à Toronto, emprunte à Miami, emprunte également à Montréal. Puis là, Donc, toi-même, tu as été capable de bien t'établir sur plusieurs marchés différents. Félicitations, c'est très intéressant de comprendre un petit peu comment tout ça a été fait. Maintenant, j'aimerais qu'on soit capable de regarder un petit peu davantage qu'est-ce que l'impact des relations publiques, qu'est-ce que l'impact des RP peut avoir pour des organisations en 2020. Je te l'ai dit un petit peu plus tôt, je suis dans le monde du marketing numérique, du direct response marketing. C'est beaucoup dans cet univers-là que je gravite, un petit peu moins dans l'univers des RP, mais j'ai eu la chance dans les dernières années de voir plusieurs de nos clients avoir des très bons coups de pub en ayant une présence, en ayant un message fort qui a été diffusé dans des médias connus. La question que je te pose maintenant, comment tout ça s'agence? Qui peut en bénéficier? Comment peut-on en 2020 dire à des organisations, des gens qui nous écoutent aujourd'hui, l'endroit où est-ce que vous devez aller, c'est une bonne stratégie de relations publiques?
Oui, et c'est tellement une bonne question. Puis comme tu t'en doutes, je me questionne là-dessus, moi aussi, beaucoup. Et j'ai fait toute une réflexion, comment on présente ça, puis comment on se présente. J'en ai épluché des sites de relations publiques, puis je me suis dit, wow, on est comme, il y en a plusieurs là-dedans qui sont chanceux de pouvoir gagner leur vie parce qu'on comprend pas ce qu'ils font. Alors, j'explique ce que je fais en disant, nous, on est un outil pour aider les marques à se faire connaître, les produits, les services. Un entrepreneur tout seul qui a lancé son entreprise peut tout à fait utiliser des relations publiques pour se faire connaître. Ça sert à ça. Les relations publiques, ça sert à vraiment se faire connaître. Aujourd'hui, comme tu le sais, on travaille dans un monde beaucoup plus complexe. Hein? C'est plus comme dans le bon vieux temps où on lançait un énorme caillou, une grosse roche dans le lac, puis on arrosait tout le monde. C'est-à-dire, on faisait de la pub dans les journaux, à la radio, à la télé. Mon Dieu, on achetait quelques billboards et puis le travail était fait. Hein? Ça, c'était le bon vieux temps. C'est beaucoup plus complexe que ça. Puis les RP ont toujours été dans le décor. Je vous dirais que j'ai un cas très intéressant. Moi, j'ai commencé à faire des RP pour L'Oréal il y a 20 ans et on nous cachait dans le garde-robe dans ce temps-là parce que c'est quoi ce DRP? C'est vraiment plus ou moins important parce que qu'est-ce qu'ils faisaient? Évidemment, bon, ils achetaient des pages hein, dans les magazines pour ceux qui se rappellent de ces années-là. Hein? Beaucoup de publicité. Donc, au fait, puis les RP étaient vraiment mis de côté. Maintenant, je vous dirais que c'est le contraire. Ben, pas le contraire. Je vous dirais qu'il n'y a plus une marque pas son agent de RP ou qui ne fait, ils font tous des RP. Pourquoi? Ben parce qu'ils ont compris que la valeur d'un article justement. Puis aujourd'hui, hein, des fois les gens oublient que tous nos médias traditionnels sont tous en ligne aussi. Hein. Bon, il y a de moins en moins de papier. Hein. Si on pense, est-ce que tes auditeurs sont surtout ici au Québec ou t'as des auditeurs d'un peu partout?
On a une clientèle qui est segmentée entre la francophonie, donc beaucoup de pays européens, France, Belgique, mais une bonne partie de la clientèle est canadienne,
bon,
ben, québécoise.
Si on pense au Globe and Mail, au Time Magazine ou à la presse, hein, vous savez tous maintenant qu'ils sont en ligne, ces gens-là. Donc, c'est ça que des fois, les gens, comme ils pensent pas, c'est normal aussi, là, ils pensent pas au RP à cœur de jour comme nous, ils pensent que c'est encore très traditionnel, que c'est encore très papier, très magazine papier, mais ça a bougé aussi. Et c'est pour ça que ça donne des résultats des fois extraordinaires. J'ai justement une jeune qui a fait notre première formation qui fait du marketing numérique qui m'a dit écoute, il y a rien comme un article sur quelqu'un pour faire grimper son le fameux SEO, le SEO, le Search Engine Optimization. Mais c'est sûr que aujourd'hui, on le sait, il y a tellement de possibilités de faire de la pub, puis je comprends que ça doit extrêmement compliqué pour un dirigeant d'entreprise de dire, mais qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'on devrait juste faire des médias sociaux? Est-ce que, bon, maintenant, la nouvelle affaire, là, c'est ça, là, tu sais, c'est Instagram, il y a TikTok qui s'en vient. Puis, tout ça coûte cher, on s'entend, tout ça coûte de l'argent. Mais bon, toi et moi, on sait qu'il faut pas faire uniquement une seule chose. Il faut être capable de doser. Et je te dirais que ceux qui ont beaucoup de succès avec peu de moyens font des RP. Ils vont intégrer les relations publiques à ce qu'ils font sur le web. Ça, c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que justement, tout ça s'additionne. Hein? Un article en ligne, un lien cliquable. Souvent, les RP, mon partenaire de Miami, dont je parlais tantôt, qui s'appelle Outsmart Labs, mon partenaire de Miami me disait, mais les RP, là, vous autres, des fois, vous contribuez jusqu'à hauteur de 60 % du SEO organique quand il voit là, dans ses clients à lui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, bon, évidemment, la compagnie va faire des choses, va peut-être même publier des blogs, etc. Mais quand on parle d'eux, hein, il y a un tiers qui parle d'eux, puis ça dépend toujours de la publication qui parle de vous, mais si justement il y a un grand, le Figaro en France décide de parler de vous, ça a une valeur énorme, ça a beaucoup de poids et Google adore ces affaires-là. Et tout ça s'additionne hein, dans le grand algorithme, cette espèce d'affaire intangible là, qu'on n'arrive pas toujours à comprendre.
c'est des domaines d'autorité qui sont très très forts. Là. Si ton nom, ton site web apparaît dans un média connu, as-tu des cas un petit peu à nous parler? Peut-être si on pouvait faire une distinction avec les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Peut-être si c'est un cas de grande entreprise et par la suite, on pourra peut-être regarder ce que les petites entreprises également peuvent faire au niveau des relations publiques.
Oui, complètement. Parce que tu vois, comme je te disais, je suis vraiment aussi en train d'aider des entreprises qui pensent peut-être pas avoir les moyens de travailler avec une agence de relations publiques, puis de les aider à créer leurs propres outils RP, puis de comment les combiner à leurs médias sociaux. Tu sais, d'ailleurs, ça, c'est une chose qu'on fait. Mais juste pour te donner un exemple très rapide, par exemple, Thermomix, je ne sais pas si vous connaissez cette bête que vous pouvez vous acheter et vous offrir à Noël. Hein, c'est comme un gros blender avec lequel on peut cuisiner, on peut faire cuire des affaires, en résumé. Mais bon, c'est très sophistiqué. Ça coûte quand même plus de 2 000 $, hein, un Thermomix. Donc, c'est quand même un appareil culinaire assez imposant. Donc, une grande compagnie internationale qui est dans je ne sais plus combien de pays, mais certainement une quarantaine de pays. Tout ça pour dire que dans le marché canadien, ils travaillent avec nous. Pourquoi? Parce que justement, ils veulent avoir des journalistes qui vont parler d'eux. Ils veulent avoir aussi des chefs qui vont aussi faire des expériences. Donc, notre travail à nous dans ce cas-ci, même en temps de COVID, c'est d'organiser, on fait des rencontres Zoom où là, on a notre expert à Los Angeles qui explique aux journalistes au Globe and Mail comment utiliser le Thermomix, puis on fait une recette. Et c'est rendu un outil très sophistiqué parce que bon, il y a même un écran qui est presque comme un iPad sur le Thermomix dans lequel il y a des milliers de recettes. Donc, à partir du moment où vous êtes connecté, tu sais, c'est devenu, les RP sont hyper utiles dans un contexte comme ça, une grande marque internationale, pour justement démarrer une espèce de rayonnement dans le marché canadien. Puis eux, ce qu'ils voulaient avoir, c'est vraiment avoir des journalistes, aussi des top blogueurs, des foodies, comme on les appelle, là, les gens qui parlent de beaucoup de cuisine et de tout ça. Donc, dans le marché ici, aller chercher une Marie-Lou, là, 3 fois par jour, pour ceux qui la connaissent, pour qu'elle puisse utiliser cet appareil-là. Donc, c'est ça qu'on fait, nous. Souvent, on va mettre des appareils dans les mains des gens. On n'a pas toujours de l'argent, on les paye pas, ces gens-là. Parfois, là, mais ça, c'est un autre débat, mais en général, on les paye pas, mais on a une monnaie d'échange. Alors, vous comprenez que, hein, tu comprends que... un Thermomix qui cuit, qui vaut 2 000 $, on n'envoie pas ça à n'importe qui. Ah, donc, les RP, dans un cas comme ça, tu vois, ça, c'est un grand cas, là, un grand groupe international qui a les moyens de travailler avec nous. Puis, on ratisse très large. Hein, on va donc envoyer cette information-là à vraiment des centaines d'influenceurs et de médias à travers le pays. La différence avec un plus petit cas, parce que les RP, c'est ça qui peut être super intéressant. La différence entre peut-être une plus petite entreprise qui a, par exemple, une boutique et un pignon sur rue, hein, comme on dit, brick and mortar en anglais, là, en pierre et en ciment, pour bien traduire. Et bon, j'ai un client qui est justement comme ça, qui a une boutique physique et une boutique en ligne. Mais sa boutique en ligne, comme vous pouvez vous imaginer, depuis 5 ans, a pris de l'ampleur. Alors lui, il était prêt justement quand la COVID est arrivée. Et ses ventes explosent en ligne. Donc, il n'a que 2 points de vente, si on veut. Mais il arrêterait pas, lui, de faire des RP avec nous parce que, c'est ça, on contribue vraiment à faire en sorte que son SEO est vraiment incroyable. Et on a réussi aussi à faire du travail avec lui très pointu, donc beaucoup moins large, avec un budget beaucoup plus réduit, on s'entend. Donc, hein, il y a toutes sortes de gammes de prix là-dedans aussi dans les RP. Ça, c'est un autre sujet. Mais on n'est pas obligé d'être une grande compagnie internationale hein, pour utiliser les relations publiques. Tout ça pour dire, on peut être aussi boutique avec une boutique en ligne.
Puis pour situer l'audience un peu, Nathalie, juste pour être certain de bien comprendre, mettons, le outcome, qu'est-ce qui se passera à la fin de la journée? Donc, on va dire que je suis une entreprise, je veux m'intégrer au Canada, je veux m'intégrer aux États-Unis, bref, je veux faire rayonner ma marque à un certain endroit géographique où est-ce que je suis méconnu. Je rentre, disons, en contact avec quelqu'un comme toi, quelqu'un dans le monde des relations publiques. Et là, l'idée la suivante, c'est que vous allez prendre, j'imagine, trouver un message qui va être évocateur pour la clientèle qu'on va cibler. Et par la suite, vous allez, on va dire, je vais utiliser le terme, être à la recherche de réseaux de distribution, c'est-à-dire un réseau de distribution comme une audience à la Marie-Lou 3 fois par jour, un réseau de distribution peut-être un blog très populaire au niveau de la cuisine. Puis là, par la suite, c'est un petit peu ça qui se passe. Ces gens-là vont créer leur propre contenu et on va essayer de faire rayonner la marque.
Ah, c'est ça. C'est vrai. Au fait, la première chose qu'on fait, moi, que je fais tout le temps avec un client, ma première question, c'est pourquoi on parlerait de vous? Pourquoi un influenceur ou un journaliste parlerait de vous? Là, Thermomix pourrait me dire, ben nous, on est vraiment, il n'y a pas deux outils comme le nôtre. On peut remplacer 20 appareils dans une cuisine. On est fantastique pour la famille, des gens seuls. Donc, on identifie toutes les raisons pourquoi des gens parleraient d'eux. Après ça, bien sûr, on se pose la question, mais une fois après, on raconte une histoire, bien sûr. Puis la troisième chose, c'est justement qui sont, moi j'appelle ça les vrais influenceurs. Pas parce qu'il y en a des faux, là, mais parce qu'il y en a des bons pour ta marque, bons pour un produit, puis moins bons pour l'autre. Hein. Ma boutique qui vend des produits de beauté parle pas aux mêmes influenceurs nécessairement qui vont être intéressés par Thermomix, par exemple. Fait que c'est ce qu'on fait, tu sais, puis bon, par exemple, puis des fois les clients, ils savent, ils nous disent, ben nous, on va être dans les grands journaux canadiens. On va être dans les sections culinaires des grands journaux. Nous, ce qu'on veut, c'est, bon, je suis un spécialiste de produits de beauté dans très niche avec ma boutique et en ligne. Je veux reparler à tous les rédacteurs chefs beauté du Canada. Donc, comment on fait ça? Et parfois, s'ils le savent pas, nous, on va leur conseiller aussi en leur disant, ben écoutez, vous vendez de la crème glacée, ben voici à qui vous devriez vous adresser. Donc, parce que ça fait longtemps qu'on est là, bien sûr, ça fait 20 ans, donc on connaît bien notre marché, on sait qui pourrait parler de à peu près n'importe quel type de produit. Mais c'est ça qu'on fait, t'as raison. Puis après, bon, ben qu'est-ce qu'on fait? On écrit une histoire. On trouve souvent un titre très accrocheur, hein. C'est un angle de vente. Puis on part. Les RP, ça ressemble à de la vente, hein. Moi, je dis souvent ça à mes équipes.
Ben, tu sais, de ce que je comprends, vite comme ça, c'est qu'à la fin de la journée, t'as plusieurs méthodes de faire de la distribution marketing. Tu sais, on peut aller investir sur Facebook, on peut aller investir sur Google, on peut investir à la radio. Donc ça, c'est des moteurs de diffusion. Mais à la fin de la journée, ton but, c'est de diffuser un message qui résonne. Donc vous, littéralement, ce que vous faites, c'est ça, c'est que vous rentrez dans le monde des relations publiques, on trouve un message qui est évocateur et les canaux de distribution sont des canaux qui, on va dire, on va pas payer pour faire de la pub, mais on va aller utiliser des audiences très intéressantes, des audiences ciblées avec, j'imagine, la cible qu'on veut retrouver. Et par la suite, là, il y a une question qui me vient en tête. C'est dans la création de ce contenu-là. Donc, on va reprendre l'exemple, fais ça très simple. Une entreprise veut travailler avec Marie-Lou. Le pouvoir que vous avez été capable de voir dans comment que le contenu va résonner, est-ce que la personne même, l'influenceur, se doit de créer le contenu ou vous aimez ça l'accompagner et créer le contenu et juste lui dire de le publier sur ses différentes plateformes?
C'est une bonne question, ça. En fait, il y a deux façons de faire. Si c'est un influenceur qu'on paye, ça dépend toujours de la notoriété de l'influenceur. Des fois, on a ce que moi j'appelle du PR money. On n'avait pas autrefois qu'on commence à avoir. C'est-à-dire qu'il y a des marques qui aiment bien travailler avec nous. On va faire une première ronde avec beaucoup d'influenceurs qu'on ne paye pas. Parce que comme tu t'en doutes, à partir du moment où tu payes un influenceur, là, bonne chance pour faire parler de toi gratuitement. Mais sachez que c'est possible de faire parler de vous sans payer des influenceurs. Ça, c'est la première des choses. Sauf que les règles sont différentes. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec Leclerc, on a fait une campagne sur justement des barres nutritives. On a payé personne. On a eu des millions en impressions, si on veut, là, de reach, comme on dit dans notre merveilleux milieu, juste en envoyant des produits parce qu'on avait packagé les produits. Ouais, nous, on est beaucoup dans la gratuité, obtenir des choses sans payer. Donc, mais dans ce temps-là, comme tu t'en doutes, on n'a pas notre mot à dire trop. C'est-à-dire que je peux pas imposer à mon influenceur que je paye pas de dire les choses d'une certaine façon mais je peux l'influencer, hein, n'est-ce pas? Je peux lui dire, mais écoute, si tu as l'intention d'en parler, laisse-nous savoir, j'aimerais que tu goûtes, tu sais, ce qu'on va faire, par exemple, ce qu'on va leur dire, mais on aimerait que vous goûtiez ces produits-là. Dites-nous ce que vous en pensez. Puis on a leur envoyé c'était une boîte magnifique, là. On avait quand même eu un travail de marketing qui était très bien fait. Donc, nous, on avait ce plaisir de proposer cette boîte magnifique qui était parfaite, pourquoi? Pour du fameux unboxing, hein, pour ceux qui suivent Instagram. Et ça, là, ça a donné des retombées de fou. On n'a payé personne. Mais bon, après, on peut leur demander, bien sûr, d'ajouter de taguer l'entreprise ou pas. Puis, tu vois, au début, on avait justement cette conversation-là avec mon client. Mon client dit, ben là, comment ça se fait qu'il n'a pas fait ci ou qu'il n'a pas fait ça? J'ai fait, excuse-moi, mon ami, là, mais là, il parle de toi gratuitement. Là, tu peux pas imposer ça. Fait que c'est ça, les relations publiques, hein. Les relations publiques, nous, on suggère, on propose des affaires. Des fois, on peut diriger un peu, mais on peut pas imposer parce que on paye pas. C'est comme quand je parle à un journaliste, je peux pas lui dire, moi, je vais être dans Page de droite mercredi matin, là, le 22 décembre. Tu comprends? Ça marche pas de même.
Puis il faut avoir un message qui est intéressant à partager. C'est ça, je pense, que la capacité ou la force même de quelqu'un qui va être très fort en relations publiques, c'est de mettre de la crème, on va dire, autour du message pour que les gens aient envie de le diffuser. Je fais une petite parenthèse sur le podcast en cours afin de vous remercier tous et chacun qui nous écoute. Vous êtes des milliers chaque mois à écouter Hypercroissance et ça me touche du fond du cœur. Également, si vous connaissez quelqu'un qui aurait sa place sur le podcast pour nous parler d'hypercroissance, je vous invite à m'écrire personnellement au email suivant agang@j7media.com, donc agange@7media.com. Et ça me fera un énorme plaisir de discuter avec vous. De retour à l'épisode en cours. Moi, je te pose une question, je te mets en contexte. Quelqu'un qui est d'ailleurs venu sur le podcast au début, au lancement d'Hypercroissance, Jacob de Vol en retard. Vol en retard, je te mets en contexte une entreprise qui, bon, eux, ça a été un petit peu plus compliqué dans les derniers mois, mais qui, si tu as un vol que tu prends pour aller en Europe ou pour aller aux États-Unis et que ton vol est en retard, tu as le droit de faire une demande pour te faire rembourser ton billet parce que le vol était 3 heures en retard. Donc, vol en retard, eux arrivent et font le travail pour toi. Au lieu que tu t'obstines avec les lignes aériennes, eux, ils vont aller s'obstiner pour toi avec les lignes aériennes. Donc, une entreprise qui est intéressante à expliquer, intéressante à diffuser au public et surtout qui, dans le passé, il y a une charte qui a été lancée là, en mois de décembre de l'année dernière, donc un an maintenant, où est-ce que maintenant tous les vols sont propices à ces demandes de remboursement-là. Je te mets un petit peu de contexte, pourquoi je te dis ça? Eux ont fait énormément de relations publiques et ça fonctionne. On voit Jacob, qui est le président un petit peu partout, message évocateur. Et je parle avec la dame qui s'occupe des relations publiques pour Jacob. Je lui ai posé une question très similaire à ce que je t'ai posé aujourd'hui. Bon, eux sont capables de faire ça. Ça a l'air de bien fonctionner. Je te pose une question. Je voudrais le faire pour mon entreprise ou un de mes clients. La première chose qu'elle me dit, tu dois avoir un message qui va intéresser des gens. Et là, moi, la question que je te pose, c'est, bon, on voit automatiquement, tu sais, être en train de refermer des portes parce que même si on pense qu'on est bon, on pense qu'on est beau en tant qu'entrepreneur puis en tant qu'entreprise, c'est pas nécessairement tellement sexy à aller promouvoir si t'as pas une nouveauté ou quelque chose du genre. À qui que ça ne s'adresse pas faire des relations publiques?
Bonne question. Je vais te donner un exemple. Tu vois, on a commencé une campagne pour une entreprise qui fait des étiquettes autocollante, là, mais que tu peux mettre sur un dentier, là, juste pour te donner un contexte. On a commencé à travailler pour eux trop tard dans l'année. Tu sais, des fois, là, il y a des moments où tu sais, oh my God, là, il y a une saturation, là. Puis ce que j'avais dit à la cliente, tu sais, nous, moi, je suis très, très honnête et très, très claire, transparente. Ça fait 20 ans que je fais ça. J'ai décidé que j'allais devenir la Jane Fonda des RP. Fait que je suis peut-être encore là pour un autre 20-30. Donc, j'ai pas d'intérêt à vendre quelque chose pour vendre quelque chose, n'est-ce pas? Donc, ce que j'avais expliqué, mais tu vois, c'est intéressant. Elle avait tout était là, tu sais, les messages. Donc, ça s'adresse justement à nos aînés en centre. C'est souvent aussi le message, oui, mais juste pour ajouter à ça, parce que des fois, t'as peut-être pas de nouveauté, mais t'es une entreprise locale. Tu sais, des fois aussi, là, ce que ça te prend, c'est être capable de t'accrocher à la tendance. Si, tu vois, t'as pas de nouveauté, t'as pas un message fort, mais comme par hasard, t'as de la glace sèche, puis là, tout le monde en a besoin, t'as vu peut-être sur le Journal de Montréal, tu comprends? Ou tout à coup, tu vois, là, en ce moment, je travaille sur une campagne pour de chocolat durable, ça veut dire c'est du cacao durable, mais j'ai, tu vois, on arrive, ça, des fois, ça prend plus de temps. Ça pour dire que des fois, oui, c'est sûr qu'un bon message est important, mais c'est pas tout. Parce que tu peux être une entreprise, faut que tu regardes, moi, je te dirais, souvent, je dis à mes clients, lisez pendant une semaine le journal, puis revenez, dites-moi de qu'est-ce que vous avez vu. De quoi ils parlent, nos amis journalistes. Puis après, tu peux, tu sais, si t'es pas nouveau, si t'es pas, tu sais, tu peux dire, moi, mes concurrents sont tout le temps là, comment ça se fait que moi, je suis pas là? Ben parce que eux autres, ça fait peut-être quelques temps qu'ils parlent. Tu vois, justement, j'ai rencontré une dame qui fait des foulards en laine mérino extraordinaire tricotée à Montréal. Puis là, j'ai dit, oh my God, vite, il faut que tu envoies quelque chose, même si, tu sais, on est peut-être très tard. Et puis, effectivement, ça aurait dû se faire avant, mais bon, hein? Noël est une période importante. Puis je regardais dans la presse, puis tout à coup, j'ai vu une autre compagnie qui fait des foulards en laine mérino tricotée à Montréal. Exactement ce que j'avais conseillé à cette dame-là, tu comprends? Fait que ça veut dire que, il y a une question de timing des fois, Hein, si vous voulez faire quelque chose dans le temps de Noël, là, puis que vous êtes un cadeau extraordinaire fabriqué localement au Canada ou au Québec ou ici, parce que là, la plus grande tendance internationale pour la prochaine année, certainement, c'est le local. Donc, t'as pas besoin d'avoir quelque chose de si exceptionnel que ça. Des fois, c'est la twist aussi. Comment, au fait, je te dirais que c'est plus comment on raconte ton histoire.
Ah, c'est très intéressant. Puis c'est tellement pertinent ce que tu viens de dire parce que on peut s'accrocher à peu près à n'importe quoi dans la vie. Donc, que ça soit un timing, une vague, une tendance, à la fin de la journée, c'est tant ou si longtemps qu'on peut s'accrocher. Question que je te pose maintenant. Bon, je l'ai dit un petit peu plus tôt. On enregistre le podcast 11 décembre 2020. On est dans cette deuxième vague de la pandémie de la COVID-19 qui est pas terminée malheureusement. La dernière année, beaucoup de brands dans le monde, beaucoup de brands, à peu près tous les brands ont dû revoir leur message publicitaire. On a vu selon moi, des campagnes complètement exceptionnelles comme Nike, qui était Play for the World, Play Inside. Donc, plusieurs marques ont été capables de faire des stunts assez importants. Est-ce que tu serais capable de nous dire aujourd'hui quelles entreprises tu as été capable de voir qui ont pu peut-être se démarquer en relations publiques dans la dernière année? Et de l'autre côté, certaines entreprises qui, malheureusement, ont peut-être raté le bateau.
Ah, c'est une bonne question. C'est sûr que, tu vois, moi, ce qui me vient en tête, deux choses. D'abord, c'est l'erreur que les grands groupes internationaux ont fait, là, tous, en RP. Peut-être pas en pub, mais en RP, ils ont complètement coupé.
Non.
Ouf.
OK.
Ouais. Donc, ça, c'est l'erreur numéro un. Donc, moi, j'ai convaincu beaucoup d'entreprises, justement, d'ici, en leur disant, je vais réduire mes honoraires. Je comprends que vous êtes en train de mettre des gens à la porte, là, mais continuez de parler à vos clients, à vos consommateurs. Pompe pas la communication tout de suite. Et ce que ça a donné, c'est qu'on a, dans certains cas, on a doublé, même triplé la visibilité de certaines marques, tellement qu'on se demande qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine. Donc, j'ai une marque de beauté, je vais vous donner quelque chose de vrai, un exemple vraiment le fun, une marque d'ici. Puis, ils m'ont dit, OK, on réduit tes honoraires, mais on continue parce qu'ils avaient gardé quand même une petite équipe. Personne ne savait, on se demandait tous au mois de mars si on allait fermer nos portes, tout le monde, là. C'est ça qu'on se demandait, on savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Bien, on est parti et puis on s'est mis à communiquer. Puis on a été ils étaient très agiles. Donc on a fait genre la routine de confinement, la routine de beauté de confinement. Ils ont été très astucieux. Puis il n'y avait pas de nouveaux produits nécessairement. Sauf que après on a vu rapidement que le local en plus. Bon ben on a un premier ministre au provincial qui a dit que l'achat local était fantastique. Fait qu'on s'est tout de suite accroché à ça. Donc quand on est capable en RP de se coller à l'actualité du mieux possible. Il y a des bonnes chances qu'on soit capable d'aller chercher une visibilité puis de la maintenir et même de l'augmenter. Là, je le sais. Puis au fait, on a représenté les résultats annuels cette semaine. Morale de cette histoire, là, on est des humains, hein. Donc, quand on arrête de communiquer, on disparaît. Ça m'a tellement... Des fois, on sait pas, hein, en temps de crise et tout ça. Puis moi, je les ai félicités d'avoir continué, d'avoir gardé le cap. Et ce que ça a fait, bien sûr, tu sais, c'est une marque qui était vendue en pharmacie. Alors, ils étaient très discrets sur leur vente en ligne parce que, bon, le réseau des pharmacies était pas très... aimait pas trop ça, quoi, que les marques vendent en ligne. Mais là, comprends-tu qu'il y avait le champ libre. Et puis, il n'y a plus une pharmacie qui va les empêcher de faire leur promotion. Leurs ventes en ligne ont explosé. Donc, pour moi, ça a été en RP, là, puis il y en a d'autres, là, c'est pas les seuls, mais juste pour vous donner un exemple ici. Puis pour moi, ceux qui ont raté leur coup, bon, il y a eu toutes sortes de choses, là, mais moi, je vous dirais que je trouve que c'est de plus dommage, c'est ça, c'est ces marques, ces grands groupes internationaux qui ont complètement arrêté de communiquer, qui n'ont pas dit ce qu'ils faisaient pour aider leurs employés, pour aider, je sais pas, justement, leur réseau de vente local. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a moyen, même quand tu es une marque internationale, d'avoir un aspect local. Tu sais, quand tout à coup c'est la mode, tu fais wow. Mais nous autres, on est quand même local parce qu'on permet à, je sais pas, à telle boutique de faire telle chose, à tel spa, à tel, tu comprends? Fait que moi, je trouve qu'il y a eu beaucoup, il y a eu des manques énormes, mais sais-tu quoi? Il y a eu de la place à un moment donné. Il y avait de la place pour tout ce qui était d'autres marques qui avaient pas cette visibilité-là avant. C'est certain.
Ben, c'est sûr et certain que si toi, pendant les premiers mois d'incertitude, parce qu'à un certain point, on est arrivé à un peu avant le début de l'été, donc là, on comprenait l'impact que la COVID allait faire sur notre vie, mais on comprenait que on allait passer à travers. Ça allait peut-être prendre du temps, mais on allait passer au travers. Et ces entreprises-là qui ont continué de communiquer en relations publiques, certainement, en publicité, j'ai vu la même chose aux gens qui faisaient de la publicité en ligne, quand, tranquillement pas vite, on est retourné à une normalité qui n'a pas été très longue, mais quand même, cet été, ces mêmes entreprises-là avait une longueur d'avance. On le voyait directement. il avait déjà été capable de bâtir, on va dire, une fondation pendant la COVID différente. Bien entendu, tu adaptes ton message n'est pas le même, tu l'adaptes. Et nous, on l'a vu, ces entreprises-là avaient déjà une longueur d'avance sur plusieurs aspects. Les ventes étaient beaucoup plus au rendez-vous, pendant que les autres étaient un peu rouillés et peut-être essayaient de retourner à la guerre.
Complètement. Après, c'est de voir c'est quoi les tendances. C'est toujours pareil. Tu sais, ça, c'est une autre tactique, là. RP, tactique vraiment de base, là. C'est quoi la tendance de là? La tendance est assez simple, hein. C'est tout ce qui est lié à la pandémie a une résonance. Donc, ça, comment vous présentez votre produit? Tu sais, à la limite, une entreprise demain matin qui a des masques, on est comme plus capable d'entendre parler de masques. C'est pas nouveau. Mais si, par exemple, ce masque-là, il y a une particularité, c'est ça qu'il faut mettre de l'avant. Tu sais, quand tu disais, faut avoir un message. Des fois, il faut avoir quelque chose qui nous distingue. Puis des fois, vous le savez, hein, vous, d'ailleurs, vous vous dites, hey, mais là, c'est ça, ils parlent tout le temps d'un tel. Je travaille avec une jeune distillerie. Hein, comme tu sais, l'alcool et je sais pas si vous le savez, mais bref, la nourriture et l'alcool, là, ça, eux, ils n'ont pas eu de problème pendant la pandémie. C'était fou furieux. Ils sont en pleine croissance. Donc, c'est une jeune distillerie, puis ils me disaient tout le temps, ah ouais, mais notre compétiteur est là, eux sont là. Je dis, mais c'est simple, eux, ils sont là parce qu'ils se sont adressés à ces influenceurs-là et ces journalistes-là, vous allez voir. Et là, écoute, même chose, on a travaillé avec eux pendant 6 mois, c'est fou la visibilité qu'on a pour eux. Parce que c'est ça, des fois, comment on fait pour faire ça? Ben, ça prend quelqu'un, soit quelqu'un dans votre équipe que je peux tout à fait former si vous avez envie, ou vous engagez une agence comme nous, mais explorer avant, tu sais, aller voir c'est qui cette agence-là. Ça fait-tu juste 2 mois qu'ils sont dans le paysage ou ça fait quelques années? Moi, je vous dirais, aller chercher une agence qui est là depuis un certain temps, qui a justement ses assises, puis qui a un carnet d'adresses, comme on dit, tu sais, qui va vraiment bien vous conseiller, puis qui ne va pas vous vendre quelque chose à tout prix. Ça, c'est, moi, pour moi, là, ça, c'est un gage de sérieux puis de qualité, là. Ouais. Mais c'est intéressant parce que, il s'en est passé des affaires pendant la COVID, mon ami.
Oh! C'est pas terminé. Puis Nathalie, on a parlé beaucoup de relations publiques. Si on reparle à faire là maintenant, où est-ce que tu vois ton organisation dans les prochaines années? Est-ce que les derniers mois ont impacté un petit peu peut-être ta vision de développement pour les prochains mois?
Oui, parce que tu vois, c'est ça, nous, on est à 2 niveaux. Alléluia. C'est sûr que j'ai eu des grands groupes internationaux qui nous ont mis sur pause. C'est pour ça que je peux parler de ça aussi. Heureusement, on a toujours eu des entreprises aussi très, très impliquées dans le marché ici, très locales. Donc, c'est sûr qu'on a connu une baisse. Mais bon, moi, je sais que là, les gens ont compris qu'il n'y avait pas un ravin après le 31 décembre, que c'était pas la fin du monde. Le vaccin est apparu, comme tu sais. Fait que ça donne de l'espoir. Et tu vois, il y a plusieurs, c'était inhabituel, mais on avait des contrats des fois de quelques mois. Les gens nous disaient, écoute, on sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'on peut travailler ensemble jusqu'au mois de décembre? On leur disait pas non, bien sûr, on les a accompagnés. Mais je te dirais que la majorité, c'est wow, on continue en 2021. Est-ce qu'on peut vraiment s'entendre sur une année? Parce que bon, je pense que là, les gens sont capables aussi de se projeter, hein, dans le futur. Fait que nous aussi, on est un peu dans cet état-là. J'imagine que toi aussi, dans ton entreprise, tu sais, c'est comme on a été un peu dans des sables mouvants, si on veut, hein, en se disant, wow, tu sais, quand est-ce que ça va arrêter ça va-tu s'arrêter au genou ou on va en avoir jusqu'au cou de cette espèce d'affaire-là? Et là, je pense que tout le monde, on commence à voir, tu sais, puis à avoir une meilleure vision. Fait que moi, je pense que c'est ça. Les gens vont, moi, je dis tout le temps, le succès laisse des traces. Regardez ce que les grands font. Ils en font des RP, ils en font tous. Tu sais, j'aime beaucoup parler de Starbucks, moi, ma marotte un peu, parce que Starbucks, c'est vraiment construit sur les RP. Ils font peu de pubs. Ils en font pas tant que ça. Dans certains marchés où c'est très, on va dire, où ils sont là depuis très longtemps, où c'est très mature, ils vont peut-être faire de la pub un peu, mais ils ont toujours une campagne de RP de fou. Ils savent comment utiliser les RP pour se faire connaître. Et au début, ils ont fait ça que ça pendant des années. Donc, c'est possible, bon, on soupçonne qu'ils intègrent ça à leurs médias sociaux puis à des influenceurs et compagnie, bien sûr. Là. Moi, je dis tout le temps, regardez ce que les grands font. Ils font pas des RP juste pour le plaisir de faire vivre quelqu'un comme moi, là, c'est sûr que non. C'est parce que ça donne des résultats, je peux vous le dire. Puis on est tenus, nous aussi, quand on travaille avec des grands groupes. C'est pour ça que j'aime ça aussi, parce qu'après, quand on travaille avec des entreprises moyennes, ben, on est capable de leur donner un service hallucinant. T'sais, quand tu travailles pour des grands groupes, eux, ils veulent avoir des informations, des résultats, des chiffres. Comment on mesure le résultat, le succès d'une campagne, etc.
Mm-hmm. Intéressant. Je terminerai une petite question personnelle. J'aime toujours en apprendre un petit peu plus. Je suis un grand amateur de lecture d'affaires. Est-ce que toi, tu aimes lire? Est-ce que tu lis un peu certains livres de business?
J'étais une grande lectrice. Puis je te dirais que, tu vois, en 2020, ça faisait partie de... Puis oui, j'ai réussi à lire plusieurs livres. Des fois, je me lève tôt le matin. Moi, je me lève tôt. Des fois, je lis 3-4 livres en même temps. Puis je lis... puis je me force à lire, tu sais, des fois quelques pages, même si je lis pas beaucoup. Alors, j'ai lu, écoute, avec un intérêt incroyable, la biographie de Monsieur Saputo.
Oh, intéressant, intéressant. Allez.
C'est tellement intéressant parce que, tu vois ça, moi, ça m'impressionne. Quelqu'un qui est parti, là, mais de son village italien, on s'entend, là, avec sa famille. Ça fait pas longtemps, là. On est juste là, c'est la deuxième génération qui s'occupe de cette entreprise-là. C'est extrêmement intéressant à lire. Fait que, tu vois, j'aime beaucoup ces livres-là.
J'avais vu sortir, je m'étais posé des questions, mais là, au moins, fait que c'est un livre qui a marqué un petit peu ton esprit dans la dernière année.
Ah, ça a vraiment marqué mon esprit, ça, cette année, je te dirais. Écoute, puis je lis toutes sortes d'affaires. Moi, je suis très curieuse, au fait. Donc, j'aime lire. Il y a un livre que j'ai lu qui semble un peu ésotérique, mais qui est extrêmement intéressant, qui s'appelle, mon Dieu. Ah, vas-tu le dire? Je le dirai pas. The Big Leap.
Ça l'arrive. Des fois.
Ouais, The Big Leap, le grand saut. Là, j'ai pas le nom de l'auteur sous le nez, mais The Big Leap, c'est une petite plaquette extrêmement intéressante. C'est un Américain qui est un peu coach, mais qui a vraiment démystifié. Dans le fond, quand on parle, au fait, c'est intéressant parce qu'il parle de quand on atteint notre limite, des upper limits. Et il décrit très bien, tu sais, des situations de, ça nous arrive à tout le monde, croyez-moi. Mais c'est intéressant de voir quand nous, on arrive justement, tu sais, pour les gens qui veulent aller plus loin, là, The Big Leap, c'est un livre très intéressant parce que des fois, on comprend des choses, des comportements qu'on a qui nous limitent tout simplement.
Intéressant. Podcast, je sais que tu en as un. Peut-être tu pourrais nous en parler un peu aujourd'hui et tu me diras par la suite lesquels que tu écoutes présentement.
Ah, ouais, j'aime beaucoup les podcasts. Moi, j'adore ça. J'ai découvert ça il y a quelques années. Donc, ça fait soit 3-4 ans que j'écoute toutes sortes de podcasts. Oui, donc j'ai créé mon propre podcast qui s'appelle Nata PR School, comme l'école, la Nata PR School. Pourquoi en anglais? Parce qu'au début, je voulais le faire uniquement en anglais. Et puis, mon producteur de podcast me dit, « Ah, mais tu devrais le faire en français, ton podcast. Il y en a pas tant que ça encore. Tu sais, le marché est loin d'être saturé du côté français. » J'ai dit, « Ah, quelle bonne idée. » J'ai dit, « Je vais le faire dans les deux langues. » Alors, donc, il s'est retrouvé avec une offre de service où... Finalement, il m'accompagnait dans les 5 premiers podcasts, mais non, c'était 10 finalement qu'il a produit pour moi. Donc, j'ai créé ce podcast-là parce que c'est une longue histoire, mais j'aime beaucoup ce que les Américains font. Je trouve qu'ils ont souvent une longueur d'avance sur même nous, les Canadiens, en matière de justement de web et de tout ça. Donc, si vous voulez vraiment apprendre des astuces incroyables, vous devez écouter Frank Kern.
Ben oui, Frank Kern.
Frank Kern, K-E-R-N, que j'adore, qui est vraiment très raw, très, hein, tu sais, c'est ça. Sors ton téléphone, fais une vidéo, puis let's go. Frank Kern, qui a un podcast extraordinaire, qui est un gars du web. Lui, c'en est un, ce qui est sur le web depuis les années 2000. Donc, il connaît deux ou trois astuces. Il y a aussi dans le genre plus léger, peut-être plus féminin, Amy Porterfield, que tu connais peut-être.
Ben oui, je connais les deux très, très bien.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est parce qu'ils sont là depuis un certain temps. Sont là depuis un bon moment, mais moi, je suis beaucoup de plusieurs life coach parce que il y a plusieurs life coach en ce moment. Il y a un groupe de femmes qui sont incroyables. Ils produisent du matériel de qualité vraiment hors normes et ils arrivent à construire des entreprises vraiment avec le web, mais énormes. Tu vois, il y a Brooke Castillo. Brooke, écoute, est rendue à 37 millions et c'est très intéressant parce qu'elle raconte tout son hero journey. Là, si vous remontez 3 ans en arrière, vous allez pouvoir écouter puis elle raconte tout ce qu'elle fait. Comment elle a créé son entreprise en ligne de coaching. Elle a des émules. Il y a aussi Stacy Berman. Stacy est vraiment extrêmement intéressante. Puis j'ai travaillé avec elle aussi. Donc, tu vois, c'est ça. Moi, je m'intéresse à ça. Puis après, ben, je veux en savoir plus. Fait que je travaille avec eux. Tu sais, j'achète leur programme de formation. Fait que c'est un peu ce que je suis en train de répéter, au fait. Parce qu'ici, il y a personne qui fait ça. C'est vraiment, donc, tu sais, c'est ça. Je veux accompagner des entreprises. Moi, j'adore les entreprises. Je trouve les entrepreneurs, tellement, ça demande tellement de fonder une entreprise. Je pense que les jeunes, des fois, ils se rendent pas compte de ce que ça veut dire. Hein, tout le temps. C'est rendu, comme je disais tantôt, presque, mon Dieu, comme devenir une star est un entrepreneur. Ça n'a pas toujours été ça.
La réalité, c'est que les barrières à l'entrée pour lancer une organisation sont de plus en plus faciles. C'est-à-dire, n'importe qui peut lancer une entreprise dans à peu près n'importe quoi très rapidement. Maintenant, est-ce que ces mêmes dits entrepreneurs vont être capables de la tenir pendant 3-4 ans de temps et de l'amener à un niveau qui devient une vraie organisation? Parce qu'il y a une grosse distinction entre lancer une organisation et perdurer à travers le temps. Donc, c'est là souvent que tu vas voir la barrière. Et ce qui s'est passé cette année, malheureusement ou heureusement, peu importe dans la manière qu'on le voit, ça l'a tracé une ligne. Ça l'a tracé une ligne. Je veux dire, la COVID-19 a tracé une ligne entre les gens qui pouvaient potentiellement passer à travers la tempête et eux qui ne pouvaient pas passer. Bien entendu, il y a des nuances à ça. Des organisations ont été totalement mises sur pause par des mesures gouvernementales. Mais même ces organisations-là, très souvent, ont été capables de se réinventer et d'offrir un service distinct. On pense juste peut-être aux restaurants. Beaucoup d'entre eux n'offraient pas le service à domicile. Et là, maintenant, ils l'offrent. Ils sont capables de faire un certain chiffre d'affaires. Moi, j'avais quelqu'un qui est venu sur notre podcast, Kevin Pilu, que lui avait un gros événement partout aux États-Unis, partout au Canada. C'était un événement qui avait 6000 femmes en même temps qui faisaient une course à obstacles. Ça allait vite, une croissance exceptionnelle. Tu auras compris que ça allait être stoppé. Il se retourne en 2 mois. Il lance le premier festival d'humour au volant au Québec. Donc, les gens sont dans leur voiture, vont voir un festival d'humour au volant. Il fait sold out en l'espace de quelques semaines. Donc, tu vois, ça, c'est des gens qui ont pu se retourner.
Oui, oui. Tu vois, moi, j'ai un client automobile en direct pour ne pas le nommer. Écoute, pendant la COVID, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas vendre de voiture. Tu sais, les gens ne peuvent plus venir dans nos concessionnaires. Ben, ils se sont mis à vendre en ligne. Ils ont vendu 500 voitures en montrant la voiture, en laissant aux gens 7 jours pour dire, je l'avais ou je l'avais pas, là. Mais ils ont quand même vendu 500 voitures. C'est comme... Donc, tu vois, il y a des gens, hein, moi, j'adore ça, ces entrepreneurs-là qui sont très ingénieux, qui trouvent des solutions.
Effectivement. Donc, tu vois, il y a une barrière qui se crée, là. À un moment donné, il y a des gens qui peuvent passer à travers ces enjeux-là, d'autres qui ne pourront pas passer. Donc, je pense que c'est ça qui distingue vraiment tous ceux qui se disent, qui se disent entrepreneurs.
T'as raison. Puis, tu vois, nous, c'est ce qu'on a fait comme toi, je suis sûre. Tu sais, on s'est dit, hey, là, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, ou on va toutes les perdre, ou on va leur proposer quelque chose, tu sais. Puis, hey, on a fait du sur-mesure. Mon associé et moi, je pense que pendant 2 mois, on a refait des offres de services comme t'as aucune idée, là. Mais tu sais, on s'est dit, on va servir, puis on a des clients des fois avec qui on travaille depuis longtemps, mais on les a vraiment accompagnés. Tu sais, de quoi avez-vous besoin, puis qu'est-ce qu'on peut raconter, puis tu vois, il y en a, mon associé maintenant, il a créé des rendez-vous hebdomadaires avec plusieurs d'entre eux, mais qui continuent parce que là, ils ont fait, hey, ben écoute, c'est trop merveilleux, là, je disais, hey, là, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine, là, tu sais, à un moment donné, on peut pas servir tout le temps tout le monde de manière aussi intense, tu comprends, parce que là, c'est sûr qu'en période de crise, oui, on le fait avec cœur, mais à un moment donné, tu fais comme, wow, là, il va falloir qu'on puisse respirer.
Nathalie, t'as mentionné plus tôt que tu te levais tôt. Oui. As-tu des routines spécifiques avant le travail, pendant, après le travail?
Surtout avant, je te dirais, c'est ça, je révélerai pas, bon, je peux dire mon âge, c'est pas un grand secret, mais quand j'étais très jeune, je vais te raconter une anecdote. Okay? J'avais un directeur, un grand patron à l'Opéra de Montréal qui avait une secrétaire de direction dans le temps où ça existait encore, là, ces femmes extraordinaires-là qui, dans le fond, auraient pu prendre la place du patron. Il y en avait une, Muriel Fournier, qui était extraordinaire. Elle me disait tout le temps, quand elle arrivait chez eux, elle était morte, qu'elle se couchait à 9h30 ou 10h le soir. Puis j'étais là, ben voyons, mais quelle vie plate. Maintenant, je suis rendue là dans ma vie. 10h, 11h, là, ça commence à être tard. Donc, je me lève très tôt. Puis qu'est-ce que je fais? Ben au fait, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? J'ai une technique au fait que j'utilise depuis quelques années qui est vraiment, je m'assois et j'écris. C'est-à-dire que c'est une technique de se vider la tête et c'est d'essayer de voir comment ça pense, parce que je sais pas si tu as remarqué, là, mais ça pense tout seul, même si on pense qu'on a le contrôle là-dessus, c'est non. Donc, ça pense tout seul et puis c'est vraiment ça. Il y a vraiment une technique que j'ai développée qui est incroyable. Ça m'a permis de réduire mon stress d'à peu près 80%. Fait que je fais beaucoup de ce qu'on appelle, ce que nos Américaines appellent du journaling. Donc, il y a vraiment une technique de tu te vides la tête. Puis après, bon, il y a tout un processus qui est vraiment intéressant parce que c'est pour ceux qui savent, hein, nos pensées, qu'est-ce que font nos pensées? Nos pensées animent nos émotions. Hein. Donc, puis après ça, c'est nos émotions qui nous font agir. Comme vos clients, hein, si vous arrivez à créer une émotion chez eux, que votre produit est, ils vont avoir envie de l'acheter, là, ben c'est ça, on est des humains. Alors, je fais un travail comme ça. Après ça, ben, je me suis acheté un rameur. L'été, je fais du vélo. Je fais du vélo de route. Mais là, bon, puis mon chum était pas trop content que j'installe mon vélo de route sur mon pied. J'ai une espèce de pied. Mais il a eu la bonne idée. Il disait, mais si on avait un rameur, je pourrais en faire moi aussi. Puis j'ai fait, ah! Fait qu'on en a acheté un avec de l'eau, là. Vraiment, je sais pas si t'as déjà essayé ça. C'est trop drôle. C'est comme si t'étais sur l'eau. C'est pas mal le fun, ça.
Nathalie, pour en apprendre plus sur toi, parle-nous un peu comment que les gens peuvent en apprendre un petit peu plus sur tes services. Tu parlais d'une formation tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Le plus simple, c'est vraiment d'aller sur notre site. Vous allez tout trouver. Nata, N-A-T-A, arrobas, Ben ça, c'est mon courriel que je peux vous donner, mais le site, c'est natapr.com. Donc ça, c'est vraiment simple pour nous trouver. Vous allez voir, il y a un onglet Natapr School, j'ai un onglet podcast, puis vous allez voir des clients aussi, puis vous allez me trouver aussi. Donc, dans équipe, je suis là, mon courriel est là, vous pouvez bien sûr m'envoyer un courriel, puis je fais ça beaucoup de ce temps-là. D'ailleurs, je fais des consultations, envoyez mon courriel, puis je vous dis des fois, 15 minutes juste pour voir où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous êtes rendu. Puis je vais vous dire très, 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 très honnêtement, il est trop tôt pour que je vous aide ou c'est pas le moment. Des fois, au fait, le moment pour communiquer, c'est ou ne pas communiquer, on en parlait un peu tantôt, c'est si votre produit est pas disponible, commencez pas à communiquer sur votre produit. Moi, il n'y a rien qui me brise le cœur plus que de voir des articles des fois, puis les produits sont pas en vente encore. Là. Puis tu sais, t'as le consommateur. Aujourd'hui, le consommateur, il veut là. Il veut quand il est en train de lire sur vous. Fait que ça, c'est la première chose. La première question.
Puis, tu n'as pas une formation que tu nous disais un peu plus tôt?
Oui, t'es fan de me dire ça. J'ai un programme qui s'appelle justement dans la Natapr School. Ma prochaine formation va commencer le 27 janvier. Et en français, j'en ai une aussi le 27-28. Donc, mercredi 27. Vraiment un cours vraiment pratique. C'est-à-dire qu'il est basé sur, bien sûr, toutes mes connaissances, mais aussi comment j'entraîne mes nouveaux employés. Donc, ce qu'on fait, c'est que le premier cours, c'est, de quoi avez-vous besoin? Un communiqué, un plan, vous avez des RP, vous voulez savoir comment on peut faire des... Vous avez un plan de médias sociaux, vous voulez savoir comment combiner des RP. Donc, le premier cours, c'est vraiment ça. De quoi avez-vous besoin? Ensuite, on le construit. Puis, toutes les semaines, je vous révèle des secrets de l'agence, évidemment. Je vous partage des communiqués. Donc, évidemment, les gens qui travaillent avec nous, petite vidéo à regarder la fin de semaine, puis après, un cours, un midi par semaine. Puis ensuite, dans le mois, si vous voulez travailler avec moi une ou deux fois, moi, je me rends disponible pour accompagner vraiment les entreprises. Vraiment. Puis ça, c'est vraiment trippant. Là, je suis vraiment rendue, j'ai tellement hâte de commencer cette cohorte-là parce que j'apprends plein de nouvelles affaires. Moi, j'aime apprendre. Alors, j'apprends plein de nouvelles affaires. Puis, tu vois, ça fait tellement longtemps que je fais ça un peu comme toi. Tu sais, quelqu'un vient avec moi avec une problématique, puis il n'y a pas grand-chose que je peux pas aider. Tu sais, je pense qu'il n'y a personne que je peux pas aider.
Ben, à force de faire quelque chose très souvent, à un certain point, à un moment donné, on commence à connaître les projets de A à Z. Hein. On est capable de les faire quasiment les yeux fermés.
Oui, puis des fois, il y a des entreprises qui viennent vers moi, tu sais, qui sont aussi là depuis longtemps. Et là, ils font, nous, on sait qu'il faut qu'on se renouvelle. On a commencé à faire des affaires en ligne, patati patata. Puis moi, je suis capable aussi de les accompagner puis leur dire, voici ce que vous devriez peut-être faire avant de venir travailler avec moi. Après, allez voir. Tu sais, moi, je connais un tel, allez les voir. Puis après, à vous de choisir, mais puis tu sais, de leur dire, je sais où vous êtes. Tu sais, je vois très bien, je suis capable de comprendre un processus autant d'une entreprise, puis après, comment ils devraient communiquer. Fait que donc, mon programme, c'est ça. C'est un programme de, pour l'instant, 3 mois. Évidemment, comme tu t'en doutes, je travaille sur un abonnement en ligne éventuellement. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment un programme où les gens vont travailler directement avec moi.
Très intéressant. Nathalie Bibeau, merci énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était très intéressant et pertinent. Un sujet que je connais pas beaucoup, mais qui m'a l'air très, très fascinant à essayer de comprendre davantage le volet des relations publiques. Mixer ça avec des stratégies marketing, ça a l'air d'être un levier très puissant.
Ben complètement. On devrait être dans tous les plans marketing du monde.
Ouais.
Parce qu'on fait partie de la promotion, hein, dans les 5 P, là, ton produit, ton prix, le lieu de vente, après ça... qu'est-ce que tu fais en pub puis en promo? Nous, on devrait vraiment être dans votre paquet d'outils, là, dans votre coffre à outils pour la promo.
Très intéressant. Donc, Nathalie, merci énormément. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Ça fait donc le tour pour Hypercroissance en 2020. J'espère que vous aurez pu apprécier la cadence qu'on a mis au podcast en s'efforçant depuis juin maintenant à sortir un épisode par semaine. On risque de continuer sur cette lancée en 2021. Également, on a lancé nos nouveaux médias sociaux pour Hypercroissance en créant des pages totalement séparées à J7 Media. On vous invite à nous suivre sur LinkedIn, Facebook et Instagram afin de voir de courts extraits vidéo de tous nos podcasts depuis le début. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.